Bonjour, vous êtes bien sur Esprit Occitanie, c'est Patchwork. Patchwork, c'est une série de chroniques sur des sujets divers et variés, animés par des animateurs qui le sont tout autant. Au gré des émissions et du temps, ils vous parleront de droit, de finances, de vin, de cinéma, de bien-être au travail et de bien d'autres choses encore. On les écoute. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't it nice?
Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans ces nouvelles chroniques de Maître Marie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux ratés, et plus précisément, deux ratés sénatoriaux récents qui vont nous permettre de faire un petit peu d'histoire du droit et d'évolution législative. En effet, ces derniers jours, le Sénat nous a fait un beau coup double en camouflé aux droits des femmes. Que voulez-vous, c'est le genre de choses qui méritent. Le 20 janvier 2021, alors qu'elle avait été adoptée à l'Assemblée, la proposition de loi sur l'allongement du délai légal de 12 à 14 semaines pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse a été rejetée par l'adoption d'une motion préalable par la majorité sénatoriale de droite et du centre. Cette motion de procédure permet de rejeter un texte avant même de débattre en détail de ses articles. Vous voyez, on ne discute même pas. Ces messieurs, et oui, 246 sénateurs, soit 70% des sièges, nous font savoir qu'il n'y a même pas lieu d'entrer en débat sur le sujet. Et comme ils étaient bien partis, ils se sont dit faisons coup double, enfin, moi franchement c'est vrai, parce que là il y a eu débat dans la nuit de mercredi à jeudi, au terme de deux jours de débats confus, voire chahutés, le Sénat a adopté en deuxième lecture une version passablement amoindrie du projet de loi bioéthique, notamment après l'avoir expurgé de sa mesure phare, l'élargissement de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Autrement dit, retour à la case départ. Alors, faisons un peu le point sur les évolutions législatives sur ces deux sujets. Point qui, à mon sens, nous amènera nécessairement à considérer qu'il faut avancer aujourd'hui. L'interruption volontaire de grossesse, en premier lieu. Faisons un peu d'histoire du droit. Au Moyen-Âge, le christianisme interdit et sanctionne l'avortement. Les idées évoluent peu les siècles suivants, toujours marquées par le pouvoir de l'Église, les lois rendant passible de peine de mort toute femme ayant avorté ainsi que tout individu l'ayant aidé. Au siècle des Lumières, sous l'influence des philosophes, l'avortement n'est plus réprimé par la peine de mort. Mais, revirement au XIXe, avec une criminalisation de cette pratique. Le Code pénal de 1791 condamne l'avortement. L'article 317 du Code pénal de 1810 condamne sans distinction quiconque provoque l'avortement d'une femme enceinte avec ou sans son consentement au moyen d'aliments, de drogues, de médicaments, par violence ou d'autres remèdes, et est puni de prison. En 1852, bien que l'avortement thérapeutique soit toléré par l'Académie de médecine et reconnu par la jurisprudence, une nouvelle loi dispose que l'avortement est un crime contre l'ordre des familles et de la moralité publique. L'utilisation de cette loi sur l'avortement thérapeutique n'est tolérée que si la grossesse met la vie de la mère en péril. Au début du XXe siècle, on estime à 500 000 le nombre d'avortements clandestins par an et à 300 par an le nombre de décès maternels. C'est l'époque des faiseuses d'anges et des tricoteuses. La proposition de loi du professeur Odilon Lannelong en 1910 aboutit à la loi du 29 juillet 1920 tendant à réprimer la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle, afin de combattre la dépopulation et la saignée démographique de la Grande Guerre. Et là, petite parenthèse, quand on dit qu'à la moindre crise, les avancées des droits des femmes sont remises en cause et que les droits des femmes sont les premiers touchés, vous voyez que c'est vrai, saignée de la Grande Guerre, éventuellement de contraception, ni d'avortement, finito, basta cosi. En 1942, sous le régime de Vichy, où la devise officielle du gouvernement est quand même « travail, famille, patrie », l'avortement est déclaré crime contre la sûreté de l'État, rien que ça, et passible après jugement par des tribunaux d'exception de la peine de mort. Et à partir de la fin des années 50, les mouvements de revendication des femmes pour légaliser l'avortement vont se multiplier. Le manifeste des 343 en 1971, le procès de Bobigny en 1972, tous les deux largement médiatisés, marqueront la présence forte du sujet dans le débat public. Parallèlement d'ailleurs, les mouvements pro-vie se développent, avec notamment la création de l'association Laissez-les vivre en 1971. En 1971, le MLAC est créé par des médecins et non-médecins militants, en particulier issus du mouvement français pour le planning familial et la CFDT. Ces militants vont réaliser des milliers d'IVG, les revendiquer, organiser ouvertement des bus de femmes allant avorter à l'étranger et des manifestations régulières dans toute la France. Face à une loi ouvertement bafouée et à l'impossibilité de la faire respecter, l'avortement est finalement autorisé et encadré par le vote de la loi Veil en 1975. Cette loi est au départ provisoire d'ailleurs, il faut le rappeler, mais elle sera finalement pérennisée. On attendra 1982 pour une prise en charge par l'assurance maladie. C'est la loi du 4 juillet 2001 qui pousse le délai légal à 12 semaines, 10 semaines originairement. Et le décret du 1er juillet 2004 autorise l'utilisation du RU486 pour un avortement médicamenteux chez le médecin de ville, c'est la pilule du lendemain. La loi Vallaud-Belkacem du 4 août 2014 renforce le droit à l'IVG. Elle sanctionne toute entrave à l'information sur l'IVG et supprime la condition de détresse avérée que la loi de 1975 exigeait. La ministre du droit des femmes à l'époque souhaite protéger la liberté des femmes à disposer de leur corps et à décider seules de leur vie, considéré comme un droit fondamental et non pas comme une simple tolérance assortie de conditions. Et donc, en 2021, on aurait pu passer à un délai légal de 14 semaines, mais le Sénat a dit non. Et la PMA alors? La PMA, vous vous doutez bien que là, on ne va pas remonter historiquement au Moyen-Âge. Hein. Dans les années 1970, avec la technique de congélation du sperme, apparaissent en France les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, les CECOS. Ces centres organisent le don de spermatozoïdes selon les règles éthiques d'anonymat et de gratuité. En 1982, naît Amandine, premier bébé français né après une fécondation in vitro. En 1983, après les assises de la recherche, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est créé. Il a pour mission de donner son avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. La législation relative à la PMA est fixée par les lois bioéthiques du 29 juillet 1994. En 2004, les lois bioéthiques maintiennent les principes fixés en 1994 et créent l'Agence de biomédecine. En 2011, on redéfinit les modalités et les critères permettant d'autoriser les techniques d'assistance médicale à la procréation et d'encadrer leur amélioration. La congélation ovocytaire ultra rapide, notamment vitrification, est autorisée. Et enfin, la loi du 6 août 2013 permet les recherches à partir d'embryons surnuméraires conçus dans le cadre d'une procréation médicalement assistée et ne faisant plus l'objet d'un projet parental, après information et consentement écrit du couple concerné. Le désir d'enfant a conduit certains couples interdits de PMA en France à y recourir à l'étranger, dans les pays où elle est autorisée pour les femmes seules ou homosexuelles, en Belgique et en Espagne notamment. Par deux avis de 2014, la Cour de cassation a jugé que le recours à l'assistance médicale à la procréation sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. La promulgation de la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe modifie nécessairement les termes du débat autour de la PMA. La loi ouvre l'adoption aux couples homosexuels et reconnaît ainsi qu'un enfant peut avoir deux parents du même sexe. En revanche, le recours à la PMA reste impossible pour ces couples. En 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié un avis recommandant au gouvernement et au Parlement d'étendre l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires au nom de l'égalité des droits entre tous et toutes. Les stratégies de contournement actuellement mises en place par les femmes qui ne peuvent avoir recours à une PMA en France les exposent en effet à des risques sanitaires, moindre suivi gynécologique, IST, etc., et à de fortes inégalités sociales, eu égard notamment au coût d'une PMA à l'étranger. Dans un avis du 15 juin 2017, le CCNE, dont on a parlé tout à l'heure, s'est déjà prononcé sur les demandes sociétales de recours à la PMA et ne formulait aucune opposition à l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, considérant que cette technique hors stérilité pouvait se concevoir pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientation personnelle. Le 25 septembre 2018, toujours ce même CCNE a remis son avis sur les priorités qui pourraient figurer dans la future loi de bioéthique et il se déclare de nouveau favorable à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Alors le 24 juillet 2019, la ministre de la Justice et la ministre des Solidarités et de la Santé ont présenté au Conseil des ministres le projet de loi relatif à la bioéthique. Ce projet de loi supprime l'exigence d'une infertilité pathologique pour recourir à la PMA et élargit l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Le projet de loi prévoit que la prise en charge par l'assurance maladie est étendue aux nouveaux publics éligibles et il autorise le recours à un double don de gamètes au cours d'une même tentative de PMA. Le texte contient en outre des dispositions destinées à sécuriser les droits des enfants nés par PMA, vérification de la motivation des futurs parents lors d'entretien, accès à des données sur le tiers donneur, voire à son identité, etc. La suite, on la connaît maintenant. Le Sénat nous a dit, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que si, il y a à voir. Ce n'est pas parce qu'on met des œillères et qu'on ne légifère pas que ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs le cas depuis toujours. La législation sur l'IVG est arrivée parce qu'on a accepté de voir ce qui se passait dans la société et ces choses contre lesquelles on ne pouvait pas lutter. Et les lois passées sont le fruit des évolutions sociétales contre lesquelles on ne pouvait pas aller. Et comme vous l'aurez compris au travers des historiques et bilans dressés, cela devient des questions d'urgence sanitaire. Et en outre, on pourrait se poser la question de l'harmonisation avec nos voisins européens. C'est d'ailleurs ce qui est dingue avec l'Europe parfois, c'est qu'on peut harmoniser les nombres des tondeuses à gazon, mais pas la défense du droit des femmes, par exemple. Et ce qui est amusant, si j'ose dire, c'est de voir aujourd'hui ressortir l'argument de l'effectivité. En effet, sur l'IVG, certains sénateurs, ou sénatrices d'ailleurs, ont considéré qu'il était plus opportun d'assurer l'effectivité de l'IVG, et notamment un meilleur accès territorial à l'IVG, pointant l'impact des restructurations hospitalières, la fermeture des hôpitaux de proximité ou le refus de certains établissements de pratiquer un acte peu rentable, et d'ajouter que l'offre médicale en France doit être augmentée avec des moyens pérennes et dédiés. Autrement dit, avant de légiférer, faisons déjà avec ce qu'on a, sauf que ce qu'on a, on l'a déjà largement démantelé. Et c'est toujours amusant quand c'est dit par quelqu'un de la majorité qui a voté justement la suppression de lits, de moyens, de budgets médicaux. Pour l'IVG, ce sont 2000 femmes qui partent chaque année avorter à l'étranger où les délais sont plus longs. Et pour la PMA, donc depuis 2014, la Cour de cassation a commencé à installer un consensus juridique, puisqu'une femme peut recourir à une PMA en Espagne ou en Belgique et faire adopter son enfant par sa compagne en France. Avec les inégalités que cela crée entre celles qui peuvent assumer le coût de cette intervention à l'étranger et celles qui ne le peuvent pas, et se remettent donc à des méthodes un peu plus artisanales qui les mettent en danger. L'adoption monoparentale est possible depuis 1966 en France. Des mères célibataires ont donc déjà élevé des enfants qui ont grandi sans père. Et en 2013, l'INSEE indiquait que sur les 13,7 millions d'enfants mineurs résidant en France, 19% vivaient en famille monoparentale. Le mariage a été ouvert à tous. La société évolue de telle manière que le législateur ne peut pas, à mon sens, refuser de protéger les droits et la santé de celles qui représentent 50% de cette société. Voilà, chers auditeurs, j'espère que cette chronique vous aura intéressé, interrogé peut-être, et ça c'est encore mieux. Parce qu'en effet, il ne s'agit jamais pour moi, en vous faisant ces chroniques, d'imposer un point de vue, mais bien de débattre. Vous le savez, chez les avocats, on adore ça. Dites-le-moi, dites-le-nous sur la page Facebook d'Esprit Occitanie, j'aurai plaisir à vous lire, à vous répondre. Si vous souhaitez nous réécouter, retrouvez cette chronique ce soir à 23h et aussi mercredi matin à 10h, et bien sûr dans la formidable bibliothèque de podcast sur www.espritoccitanie.fr. On se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie de mes merveilleux acolytes du patchwork. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
Bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans la Casa de Ebel. Pour cette nouvelle chronique de l'année 2021, je vous propose, au menu de la Casa de Ebel, la Casa des Bonnes Nouvelles, de parler taxes d'habitation et Super Bowl. Je n'oublierai pas, en ce 40e jour du calendrier grégorien, de vous donner la réponse au quiz de la dernière émission, et comme le veut la tradition, je soumettrai à votre sagacité un nouveau quiz en fin d'émission. Le secteur aéronautique vit actuellement une période très rude. C'est pourquoi j'ai souhaité parler aviation dans ce nouveau quiz. Et c'est parti pour une nouvelle halte dans la Casa de Ebel, avec la réponse au dernier quiz. Vous avez été nombreux à contacter le standard de la radio pour nous fournir majoritairement la bonne réponse. Je vous proposais de chercher le nom d'un phénomène lumineux et naturel qui se produit autour des pôles magnétiques. Ce phénomène apparaît lorsqu'en provenance du Soleil, des nuages de matière chargés en énergie rencontrent l'atmosphère terrestre après avoir été repoussés par le champ magnétique qui protège notre belle planète bleue. L'intensité de ce phénomène lumineux varie en fonction, bien entendu, de l'activité solaire. Il s'agit donc de l'aurore boréale, encore nommée aurore polaire ou aurore australe. Et finissons par une petite anecdote amusante. En préparant la chronique de la fois précédente, je suis tombé sur une interview d'un professeur à l'Université d'Orléans, spécialiste de la relation Terre-Soleil. Il y indiquait qu'il est possible de prédire l'apparition des aurores boréales, mais uniquement quelques heures à l'avance. En effet, lorsque les satellites situés entre le Soleil et la Terre enregistrent un sursaut d'intensité du vent solaire, ils envoient immédiatement un message d'alerte. Nous savons donc, comme nous dit le professeur, que dans l'heure qui suit, se produiront des aurores lumineuses ou des aurores boréales. Eh bien, imaginez qu'il existe des agences de voyage spécialisées dans les aurores boréales qui utilisent ce service d'alerte. Comme je vous l'indiquais en début d'émission, voici la première « bonne nouvelle » entre guillemets de cette chronique New Look. Parlons taxe d'habitation. La taxe d'habitation a été modifiée par la loi de finances pour 2018. En effet, depuis cette date, elle baisse progressivement pour 80% des ménages français, qui ne la payent plus à compter de 2020. Pour les 20% des ménages restants, la suppression de la taxe d'habitation se déploiera jusqu'en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. Nous sommes tous d'accord pour dire que cette suppression est plutôt une bonne nouvelle. Mais au fait, que finance la dite taxe d'habitation ? Cette taxe qui fut créée en 1974 a beaucoup évolué depuis cette date. Aujourd'hui, elle permet notamment de financer les services publics au niveau des communes. Elle contribue notamment au financement des dépenses sociales et scolaires, à celui des équipements sportifs et culturels, ainsi qu'à l'entretien de la voirie. Rendez-vous compte que additionner les taxes foncières sur le bâti et le non bâti, la taxe économique territoriale et la taxe d'habitation représentent près de la moitié des ressources de ces collectivités territoriales. La taxe d'habitation représente à elle seule près de 12% du financement de ces mêmes collectivités. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, avant que la grande faucheuse, l'administration fiscale, n'imagine une nouvelle taxe, un nouvel impôt, une nouvelle contribution, que sais-je, pour compenser la disparition programmée de cette taxe d'habitation. Et sans transition, je vous avais dit qu'on parlerait taxe d'habitation et Super Bowl. Nous venons de parler de la taxe d'habitation et maintenant, nous voici à Tampa Bay, en Floride, pour assister au 55e Super Bowl de l'histoire de la NFL, la National Football League. Cette finale du championnat américain de foot US opposait dans la nuit de dimanche à lundi les Chiefs de Kansas City, les tenants du titre, aux Buccaneers de Tampa Bay, qui jouaient à domicile. Au final, les boucaniers, en français dans le texte, remportent le match sur le score implacable de 31 à 9, avec en prime un 4-0 en ce qui concerne le nombre de touchdowns inscrits au cours de cette rencontre. Alors le touchdown, pour ceux qui ne connaissent pas, est l'alter ego US de l'essai que nous connaissons au rugby. Vous avez entendu au début de cette chronique un extrait du tube Blinding Lights de The Weeknd, qui a assuré le show au cours de la mi-temps de cette partie. En effet, chaque année, un ou plusieurs artistes proposent aux spectateurs un intermède musical de très grande qualité. Dans le passé, des artistes comme Prince, Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, et plus récemment, Jennifer Lopez, Shakira, Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay et tant d'autres ont assuré le show. Que l'on connaisse ou pas ce sport, que l'on apprécie ou pas ce sport, il s'est passé au cours de cette soirée un événement spécial. Il s'agit du 7e sacre de Tom Brady, le quarterback des Tampa Bay Buccaneers. Le quarterback est le meneur de jeu de l'escouade offensive d'une équipe de football US. Il est le premier joueur de la ligue à remporter autant de titres avec un petit plus. C'est simplement qu'il cumule également 5 titres de MVP. MVP voulant dire Most Valuable Player du Super Bowl. Le MVP est simplement le meilleur joueur de la partie et est nommé à l'issue de cette dernière. La performance qu'a réalisée notamment hier Tom Brady en remportant son 7e titre collectif et son 5e titre personnel de MVP le place au niveau des sportifs tels que Michael Phelps en natation et Michael Jordan en basket. Tom Brady devient une légende du sport américain à 43 ans. Félicitations. Et pour finir cette parenthèse inattendue, que diriez-vous d'un quiz aéronautique, le deuxième ? Et plus exactement, mais pour la première fois, d'un double quiz aéronautique. Il y a exactement 52 ans, un avion mythique, qui est encore en service aujourd'hui, prit son envol pour la première fois. Je vous donne un indice. Il possède plusieurs surnoms, dont le plus connu est Jumbo Jet. Nous cherchons maintenant, pour la deuxième partie de ce quiz aéronautique, le nom d'un ingénieur, aéronautique, ça va de soi, soviétique, qui conçut de nombreux avions et qui fonda même un bureau d'études d'où sortirent les 10 avions qui portent son nom. Alors, comme dans le premier quiz, je vous donne un indice. Cet ingénieur, vous avez bien compris qu'il était soviétique, donc est décédé à Moscou le 9 février 1977. Eh bien, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour connaître la réponse. C'était la Casa de Ebel. Je vous remercie pour votre écoute et attends vos réponses au, avec un X, quiz de la semaine. À la réalisation, je remercie Yanis.
Chers auditeurs, bonjour. Monique Marc pour la rubrique « La lectrice d'Occitanie ». Je vous propose cette semaine la lecture du chapitre 9 du roman de Frédéric Coudron, « La suerte de matar » au Diable Vauvert. Juin 2018, Séville. Ma conversation avec Louane m'avait redonné le moral. Elle était mon rayon de soleil. Entendre sa voix suffisait à mon bonheur. En plus, mon père l'avait gâté. Il lui avait offert 2 poupées et l'avait emmené au cinéma. En bref, je ne lui manquais pas du tout et je préférais cela. Évidemment, elle savait que j'avais dû partir pour le travail, mais je ne lui avais pas parlé du sujet de mon reportage. D'une manière générale, je ne le faisais jamais. Je préférais la protéger de tout ça. Je raccrochais en lui disant que je l'aimais et regagnais ma chambre où Paco dormait profondément. Je m'allongeai sur le lit et m'endormis presque aussitôt. 11h45. Mon réveil sonna. Un peu reposé et boosté par le coup de fil à ma fille, je grillai à Paco la priorité à la douche. J'avais décidé de prendre soin de moi, de me faire belle. Ça m'arrivait rarement. Avec le recul, je pense que la présence de Carmen avait justifié ce besoin de me sentir désirable. Je pris donc tout mon temps dans la salle de bain, tandis que Paco pestait derrière la porte. « Lise, tu sais que je suis comme une gonzesse, je ne me prépare pas en 5 minutes, tu abuses, sors de là !» J'avais emporté une jupe portefeuille noire, une paire de bas, un chemisier blanc et des escarpins Jimmy Choo que la vaissière m'avait achetés lorsqu'il me portait encore un peu d'intérêt. Je lissais mes longs cheveux bruns et adoptais un maquillage nude, concentrant mes efforts sur mes yeux. Ce fut ainsi armé que je sortis de la salle de bain devant les yeux ébahis de mon collègue. Waouh, Lise, tu as un rancard ou quoi? Depuis 10 ans qu'on se connaît, je ne t'ai jamais vue aussi sexy. C'est Ortega qui te fait cet effet? Tu plaisantes? Pas du tout. Ma tenue n'a rien d'exceptionnel. Ah, d'autres, tu es un véritable avion de chasse comme ça. Je renonçais à discuter avec Paco. D'ailleurs, il était entré dans la salle de bain. J'en avais peut-être fait un peu trop. Même s'il était d'un naturel exubérant, je ne m'attendais pas à une telle réaction. Du coup, je me sentis gênée, au point de décider d'enfiler un jean. Mais quelqu'un frappa à la porte. J'ouvris. C'était José Ramón. En me voyant, il eut une expression évidente de surprise, ce qui renforça ma gêne. « Mademoiselle Delors, Monsieur Ortega souhaiterait vous offrir un verre avec votre collègue. »«
Oui, maintenant ?»«
Oui, il nous attend au bar. »« Mon collègue est sous la douche. Il nous rejoindra. »«
Très bien. »
J'informai Paco de l'invitation à travers la porte. Il pesta une nouvelle fois, se plaignant du manque de temps qu'il avait pour se préparer. Dans le couloir, jusqu'à l'ascenseur, l'apoderado me complimenta du bout des lèvres. « Vous êtes très en beauté. » Rouge de honte, je le remerciai, puis ne dis plus un mot jusqu'à notre arrivée au bar où Ortega nous attendait, avec Carmen, dans un fauteuil autour d'une table basse. Il portait une élégante chemise noire, un jean slim et une paire de mocassins. Une tenue décontractée, en somme. Mais même dans ses vêtements ordinaires, je dois admettre qu'il avait une classe folle. Sa maîtresse portait des leggings, des baskets et un t-shirt moulant rouge qui mettait en valeur sa généreuse poitrine. En me voyant, elle esquissa un sourire que je pris d'abord pour une expression de jalousie, ce qui flatta mon égo et me fit moins regretter le choix de ma tenue. Mais les mots que le matador adressa à son impresario en parlant de moi me fit redescendre sur terre. Elle sait que nous allons visiter une ganaderia? Tu lui as dit que ces vêtements n'étaient pas appropriés? Nous n'allons pas à une soirée de gala. Le mufle. Il ne s'adressait même pas directement à moi. Jamais je ne m'étais sentie aussi humiliée. Même José Ramón parut gêné par le comportement de son patron. Vous pourrez vous changer rapidement avant de partir. Vous savez, les ganaderias sont des sortes de fermes. Un jean et des chaussures plates seront plus adaptés. Je le remerciai du regard et m'installai dans un fauteuil face à Ortega qui ne me lâchait pas du regard. Il semblait me détailler comme une marchandise, ce qui m'énervait au plus haut point et en même temps me troublait. « José, demande-lui ce qu'elle veut boire. » Par simplicité et par habitude, je commandai une tequila. Le matador me regardait toujours fixement, tout en caressant sensuellement le cou de Carmen, assis sur l'un de ses genoux. Je n'étais pas du genre à me laisser impressionner, mais là, je ne savais pas quoi dire, ni comment me comporter. De plus, avec ses fauteuils, ma robe trop courte laissait voir la naissance de mes bas. Je me relevai légèrement pour tirer sur le tissu. Cela parut à amuser Ortega, dont les lèvres s'illuminèrent d'un sourire en même temps qu'il plantait ses yeux dans les miens. Le serveur apporta mon verre. Je buvais ma première gorgée lorsque le torero s'adressa à sa maîtresse et à son apoderado. Mademoiselle Delors est une enquêtrice formidable, le saviez-vous? Elle a enquêté sur les pires tueurs de notre époque. C'est pour cela que j'ai accepté le principe de ce reportage. Je faillis m'étrangler avec ma gorgée de tequila. José Ramón aussi parut surpris. Ortega ne lui avait donc pas parlé de notre petit jeu dans le jet. Il resta silencieux. Carmen, par contre, intervint. « Mais pourquoi? Je ne comprends pas, tu n'es pas un tueur. » Certains le pensent. Peut-être a raison. Alors, Mademoiselle Delors va faire la lumière là-dessus. Suis-je un assassin? Suis-je innocent? J'étais de plus en plus mal à l'aise. Je décidai de ne pas rentrer dans le jeu de ce type cinglé et mégalomane. Alors il se leva, et toujours sans m'adresser la parole, il poursuivit. En attendant, nous avons des taureaux à aller voir. Je vous attends aux voitures. Paco venait d'arriver au bar. Il était dépité de ne pas pouvoir prendre un verre avec nous. Je remontai rapidement pour me changer. J'enrageais. Une fois en jean et baskets, je redescendis dans le hall. Devant l'hôtel, deux 4x4 noirs aux vitres teintées nous attendaient avec leur chauffeur. Ortega était monté dans le premier avec Carmen et un de ses peones.
Nous prîmes place dans le second avec José Ramón Olano. Ce dernier était perturbé. Je ne comprends pas pourquoi Ortega a dit cela. Il a un comportement bizarre. Vous savez quelque chose ? Non. Juste que dans l'avion, il m'a déjà demandé, d'une certaine manière, de reprendre l'enquête sur la mort de Victorino Vega. C'est bizarre. Ça date de 2 ans et je suis certain qu'il n'a rien à voir là-dedans. De deux choses l'une. Soit il veut que je trouve l'assassin, soit l'assassin, c'est lui. Lorsque nous serons à Madrid, j'irai voir ce flic dont vous m'avez parlé pour essayer d'en savoir plus. Ortega était vraiment très proche de Vega. Il veut peut-être comprendre ce qui a pu se passer. Et comme la police n'avance pas sur l'enquête, je ne vois que ça. Paco, de mauvaise humeur, intervint. La vaissière est au courant ? Laisse tomber la vaissière, Paco. Tu en as deux bonnes, Lise. Je n'ai pas envie d'être virée. La chaîne veut un reportage sur la tauromachie, pas une enquête criminelle. L'un n'empêche pas l'autre. Les 4x4 se frayèrent un chemin au milieu des quartiers colorés de la ville, passant à proximité de la magnifique Giralda, l'ancien minaret de la grande mosquée almohade, puis traversant le Guadalquivir pour se diriger vers la Campiña Sevillana. Cette vaste étendue de plaine légèrement ondulée était exploitée depuis des siècles pour sa fertilité. Culture céréalière, maraîchère, oléicole et élevage des taureaux braves, évidemment. Nous avions roulé une 30 minutes à peine, mais j'avais la nausée. D'une manière générale, je ne supportais pas de me retrouver à l'arrière d'une voiture. J'interrogeai José Ramón. « C'est encore loin ?»« Non, on est presque arrivé. C'est là-bas, regardez, la ferme d'Esa del Castillo. » Nous nous trouvions dans une magnifique zone de pâture clairsemée du village El Castillo de las Guardas, entre Séville et Aracena. Partout, des chênes de liège. Le domaine couvre environ 650 hectares. On n'y élève pas uniquement des taureaux de combat. On y engraisse aussi des porcs ibériques avec des glands. Le 4x4 s'arrêta à côté d'une magnifique collection de voitures à cheval. « Filme ça, Paco, ça fait couleur locale. » Déjà descendu de son véhicule, Ortega avait passé un trench bleu marine qui renforçait sa classe naturelle. Un homme élégant, d'une 60aine d'années et chapeauté, vint à sa rencontre, les bras grands ouverts. Je devinais qu'il s'agissait de l'éleveur, ce que confirma Ramón. « C'est Gabriel Rojas, le ganadero. » Les deux hommes se serrèrent dans les bras et, tout en discutant, s'avancèrent vers un magnifique bâtiment blanc. Carmen les suivait à distance. Dans ce monde résolument macho, elle savait vraisemblablement où était sa place. Ortega ne nous prêtait aucune attention, ce qui commençait à m'agacer sérieusement. J'en fis part à son apoderado. « On fait quoi, là ? Vous ne vouliez pas prendre des images des taureaux ? Si, mais le but reste de filmer et d'interviewer Ortega pendant la visite. Filmer des taureaux, on peut le faire ailleurs et sans lui, il se fout vraiment de nous. Attendez, je vais le voir, mais je ne vous garantis rien. Il aime être tranquille quand il rend visite aux taureaux. Demandez-lui au moins s'il est d'accord pour qu'on le filme. Ok. » José Ramón échangea quelques mots rapides avec Ortega et revint vers nous, le sourire aux lèvres. « Il est d'accord pour que vous le filmiez et il voudrait qu'en même temps je commente. Enfin, si ça vous convient. » Je le chambrai un peu. « C'est votre heure de gloire, José. » Bon, soit, allons-y comme ça. Paco prit des images du matador tandis que je tendais le micro à l'impresario. Ortega s'était éloigné de l'éleveur. Désormais seul, les bras croisés, il regardait les taureaux dans un grand pré entouré de clôtures. Je posais quelques questions à Ramón. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il fait ? Il est en communion avec les bêtes. Il les étudie. Les taureaux de Gabriel Rojas se sont toujours caractérisés par leur fidélité à la caste Núñez. L'élevage s'attache à préserver cette allure, basse du garrot, mais fine et harmonieuse dans ses formes et sachant humilier. Humilier, cela veut dire, pour un taureau, baisser la tête et mettre les cornes dans la muleta, la cape du matador. C'est un signe de noblesse. Ici, ce sont des animaux imposants, mais compatibles avec la taille de la muleta du taureau. Il les choisit ? Pas vraiment. Les organisateurs de corrida viendront les choisir. Mais il pourra les orienter un peu pour la constitution de leur cartel. Parlez-nous un peu de l'éleveur. Ici, c'est l'élevage de Gabriel Rojas Fernandez. C'est un célèbre ganadero, mais il n'est pas qu'éleveur. C'est un homme d'affaires aux multiples professions. Il est agriculteur, hôtelier, promoteur immobilier. Il collectionne les postes d'honneur de la Hermandad del Rocío de Sevilla à la présidence du Sevilla Football Club. C'est un personnage public en Espagne. Son élevage a raflé pendant des années la première place de l'Escalafón Ganadero. C'est une sorte de classement des élevages. Je coupais le micro. C'est très technique ce que vous expliquez, José. Nous verrons au montage ce que nous pouvons garder. Excusez-moi, je suis passionnée, je m'emballe vite. Paco filmait toujours. Ortega fit un signe à l'éleveur, puis de l'index, il désigna trois taureaux qui se tenaient debout sous un chêne. Ceux-là, ce sont des champions, je pense. Ortega ne se trompe jamais. Il voudra les taurer, c'est sûr. Mais, d'après ce que vous nous avez dit, il ne choisit pas les taureaux, je ne comprends pas. Oui, mais comme je vous l'ai expliqué, il fera part de sa volonté aux organisateurs de corrida. Alors, s'ils le veulent dans leurs arènes, ils auront tout intérêt à retenir ces taureaux et à les mettre en face de lui. Ah, d'accord, je comprends. C'est une forme de chantage, en somme. Je n'irai pas jusque-là. Alors que nous discutions, une voiture de sport jaune arriva à toute allure. Elle stoppa net, à quelques mètres de nous, arrachant à la piste de terre un panache de poussière. Un jeune homme en jogging en descendit. Je le reconnus immédiatement. C'était El Carillo. Il se dirigea vers le ganadero, en nous ignorant totalement et en ignorant Ortega lui-même. De loin, nous le vîmes gesticuler devant l'éleveur et nous l'entendîmes crier en espagnol sans comprendre ces mots distinctement. Gabriel Rojas haussa le ton également. Le manège dura 5 bonnes minutes, au terme desquelles le jeune matador remonta dans son bolide et repartit en faisant crisser ses pneus. Stupéfaite par la scène qui venait de se dérouler sous nos yeux, j'interrogeai José Ramón. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» José Ramón me répondit, amusé. « Je pense que Rojas avait promis des taureaux à El Carillo, mais qu'il vient finalement de les réserver à Ortega. Du coup, l'autre est furieux. C'est un jeune, il faut qu'il apprenne. Ça arrive souvent. C'est ça aussi, la corrida. » Ortega n'avait pas bougé d'un pouce. L'événement ne l'avait absolument pas perturbé. Il n'avait même pas détourné son regard des taureaux qui captaient toute son attention. L'une des bêtes se rapprocha jusqu'à frôler la clôture. L'animal était paisible. Il tourna la tête vers le matador qui avança la main pour le caresser juste entre les deux cornes. La scène était vraiment impressionnante. Je me tournai vers Paco. « Filme ça !» Mais il n'en eut pas le temps. Le contact entre Ortega et l'impressionnant taureau n'avait duré que quelques secondes. Voilà, chers auditeurs, je vous retrouverai la semaine prochaine pour la suite de ce roman. Et je vous invite à écouter toutes les émissions de la radio sur www.espritoccitanie.fr ou sur l'application mobile pour smartphone. Je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt !